Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Bonjour à tous, ici Anna, micro de contre-soirée, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Les amis, comment ça va là-dedans ? Moi, ça va super bien. Je vous parle de mon Airbnb à Paris, car je n'ai toujours pas trouvé d'appartement. Yeah ! Je cherche un appart depuis 2 mois, pour ceux qui n'auraient pas suivi mes aventures immobilières. Et je ne l'ai toujours pas trouvé, sauf que mon travail se passe encore et toujours à Paris. Et mes amis sont encore et toujours à Paris, donc je suis encore et toujours à Paris, mais sans logement. Donc là, j'ai pris un Airbnb qui est ni plus ni moins qu'une chambre. Donc je suis vraiment assise sur un tabouret et on s'apprête à passer un moment ensemble quoi les amis. On va discuter aujourd'hui, j'étais pas là la semaine dernière, vous savez pourquoi ? Bah non, vous savez pas pourquoi, je vais vous le dire. Parce que j'avais un rhume et il faut savoir que je suis une personne très fragile. Donc je tiens bien la douleur mais dès que je suis un peu fatiguée, je suis out. Donc là j'avais un peu de fièvre, le nez qui coule, j'ai pas pu exister pendant 4 jours. Donc le podcast est passé à la trappe, je suis désolée, j'espère que vous avez survécu et que votre équilibre était pas non plus trop perturbé. J'ai eu des messages comme quoi pour certains, ça a été une véritable épreuve, donc je suis ici cette semaine de retour. Aujourd'hui on va faire un épisode sur une phrase que j'ai dite dans un podcast il y a pas longtemps, je sais plus lequel c'était, où je disais que c'est quand j'ai le plus envie de dire non qu'il faut dire oui. Alors, attention, cette phrase ne doit pas être sortie de son contexte. Ça s'applique au moment où on est consentant, bien entendu. Ça s'applique rarement, par exemple, aux relations sexuelles. C'est vraiment le sentiment qu'on connaît tous, je pense. On nous fait une proposition, on a une opportunité, on se pose une question, on a une envie. On sait que cette chose serait bien pour nous, mais la peur fait qu'on dit non à cette opportunité, qu'on se répond non à nous-mêmes, et que du coup on va pas là où, de base, notre cerveau, sans le sentiment de la peur, nous emmènerait, et où notre instinct nous emmènerait. Cette pensée m'est venue parce que j'ai vu un TikTok, encore et toujours, qui... une citation. Vous connaissez les TikTok où genre il y a de la musique un peu épique en fond, et il y a un monsieur en train de soulever 1 milliard de kilos, ou en train de... vraiment sauter de la tour Eiffel, et là c'était en anglais, attention, sortez vos dicos, la phrase disait « When it feels the scariest to jump, that's exactly when you jump ». Alors, je l'ai traduit en français, car je suis moi-même bilingue, et pour moi, en français, on dirait « quand il... » ouais, je sais pas trop comment on dirait. « Quand t'as le plus peur de sauter, c'est exactement à ce moment-là que tu sautes ». Donc pour le titre, j'ai raccourci, hein, quand t'as le plus peur de sauter, c'est là où tu sautes, ou je sais pas ce que j'en aurais fait. C'est pour moi une phrase qui a énormément de sens, parce que depuis toujours, enfin en tout cas depuis très très longtemps, depuis que j'ai un cerveau qui fonctionne et que je suis un peu mature, je me suis rendu compte que sortir de sa zone de confort, c'est ce qui faisait que la vie était intéressante en fait. Je me suis rendu compte... plein de fois au cours de mes études, je vais vous raconter ça, mais je me suis très très souvent rendu compte, et puis je me renseigne un peu sur tout ça, j'écoute beaucoup les gens parler, et souvent c'est quelque chose qui revient. Les gens ont souvent tendance à dire la phrase, oui, comme je viens de vous le dire, sortir de sa zone de confort c'est primordial, c'est ce qui crée des opportunités, c'est ce qui crée une carrière, c'est ce qui fait que tu te dépasses dans la vie. Moi j'entendais cette phrase et j'étais un peu en mode d'accord, je l'entends, mais en fait c'est très très compliqué, c'est impossible d'ailleurs, j'aimerais mais je ne peux pas l'appliquer. Et puis j'ai appris avec le temps, au fur et à mesure, à le faire. Moi, ma technique pour sortir de ma zone de confort, c'est de me dire exactement cette phrase, de me dire, quand je sais que j'ai peur et que j'ai les chocottes devant un truc, c'est qu'il faut y aller, c'est qu'il y a un truc qui va se passer, il y a un truc qui va en découler, qui va être bon pour moi. Et du coup, j'ai développé au fur et à mesure du temps, déjà le coup de pied au cul, donc ça veut dire que je me mets à moi-même un coup de pied au cul, où je suis en mode, de toute façon, t'as pas le choix, ma vieille, donc tu vas le faire. Ma technique, c'est de me dire, dans 1 heure, ce sera fini. Par exemple, pour les exemples que je vous donne, je vais aller voir ce mec en date, C'est un exemple un peu bateau, mais vous avez compris. Au mieux, on a une histoire d'amour incroyable. Au pire, dans une heure, c'est fini et on passe à autre chose. Et au moins, je me serais dépassée. Et en fait, t'en tires une telle fierté que, bah, que en fait, ça vaut le coup et t'as envie de le faire tout le temps. Et en fait, du coup, moi, au fur et à mesure des années, depuis genre 5 ans, je me suis rendu compte que c'était au moment où je sortais de ma zone de confort et où du coup, je sautais quand j'avais le plus peur de sauter, que je créais des trucs incroyables, genre, et que je ressortais avec des expériences, des apprentissages, des rencontres qui m'ont marqué pour toute ma vie. Pour développer ce podcast et pour illustrer un peu mes propos, je me suis posé la question, et je pense qu'on devrait tous se la poser, pour faire un petit récap et se rendre compte d'à quel point ce que je dis est vrai. Je me suis demandé quelles sont les fois où j'avais peur de dire oui. J'avais envie de dire oui, mais la peur m'empêchait de dire oui. Je l'ai fait quand même, et j'en suis ressorti avec le meilleur truc. Genre. J'en suis ressorti avec une fierté immense et un apport immense. J'ai fait une liste de tout ça. Franchement, je vous recommande de vous poser cette question. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a du mal, en fait, avec... j'ai du mal à me contenter de ce que j'ai et j'ai du mal à me contenter du quotidien. J'ai besoin de plus. J'ai toujours besoin d'avoir un peu d'exceptionnel, d'avoir un peu de vivre des trucs, de ressentir des trucs, parce que la routine métro, boulot, dodo, sans aucune adrénaline, sans aucune différenciation qui reste vraiment routinière, elle me tue et je n'y vois aucun intérêt. Même si je suis quelqu'un qui, je vous en parlerai peut-être dans un prochain épisode, j'aime avoir une routine et j'aime avoir une routine saine et tout. J'aime me sentir bien dans mon corps, ma tête. J'ai besoin de moments de folie ou j'ai besoin de moments de dépassement pour me sentir vivante et pour sentir que j'avance dans ma vie. Et donc, c'est ces moments où je sors de ma zone de confort. Donc, je me suis posé la question, j'en ai ressorti plein d'exemples. On va commencer premièrement par mes études. Moi, quand j'ai fini mon bac, j'ai voulu faire une licence de communication parce que c'était ce qui me plaisait le plus. Je faisais déjà YouTube depuis un moment, depuis genre 6-7 ans. Et j'étais vraiment en mode, bon bah, de toute façon, moi je veux faire ça. Mes parents et moi-même, on est d'accord pour dire que j'aimerais sécure de bague et j'aimerais faire des études pour être sûr de, bah, si ça marche pas, si Internet arrête de fonctionner, s'écroule, s'il y a plus d'électricité ou si ça me plaît plus, avoir des études et avoir un truc... Qui me professionnalise. J'ai voulu faire une licence infocom, un DUT infocom, pardon. Donc j'ai postulé et j'ai été absolument pas prise, alors que j'étais sûre que j'allais être prise. Donc j'ai pris une vraie petite clacasse, ça m'a remise les idées en place. Et je me suis retrouvée du coup en licence LEA. Je me suis retrouvée en licence LEA à Lyon, à la fac. Moi, je suis une personne qui est très dissipée, donc si tu me laisses arriver quand je veux dans un amphi et que tu vérifies pas ma présence et que tu me contrôles qu'une fois tous les 6 mois pendant un partiel, je ne vais pas travailler, genre. D'autant plus si le sujet m'intéresse pas plus que ça. Licence LEA, ça veut dire langue étrangère appliquée. Ça veut dire que vraiment, j'allais en cours toute la journée pour traduire des textes de l'anglais au français et de l'allemand au français. Vraiment, j'adore. Moi, j'ai appris à parler anglais par Internet, par YouTube, par les films. Je m'instruis toute seule de la langue. Et ça, c'est vraiment ma passion. J'adore écouter des musiques et comprendre chaque mot et tout. Mais j'avoue que je suis pas forcément... une personne, j'avais besoin de plus de créativité, j'avais besoin de plus de visibilité, de visuel, de plein de choses, et traduire juste des textes, ça me passionnait pas plus que ça. J'ai passé les premiers partiels, j'ai eu 10, mais en fait, je ne m'épanouissais absolument pas, je ne me sentais pas bien dans mes études, je voyais que j'allais décrocher, je voyais que, de toute façon, si je continuais comme ça, j'allais vivre une vie malheureuse. J'aurais pu me dire, bon, je suis inscrite là, j'ai pas eu d'autre option, j'avais une envie extrêmement forte de faire une école de communication. Et j'étais vraiment en mode, mais est-ce que je peux faire ça? Genre, est-ce que je vais arriver le premier jour, je vais connaître personne, puis il faut passer un concours, imagine j'ai pas le concours, il faut se présenter devant des gens que je connais. Voilà, j'avais peur de tout ça, j'avais peur de décevoir mes parents, j'avais peur de me tromper, j'avais peur de plein de choses. Je me suis dit, allez, passe le concours. J'ai passé le concours d'entrée de l'EFAP, je l'ai eu, et j'ai fait 5 ans d'études, qui ont été pour moi la meilleure chose parce que je ne vois pas où j'aurais été ailleurs, où j'ai rencontré des gens exceptionnels et où j'ai eu une autre opportunité qui prouve le fait que sortir de sa zone de confort, c'est exceptionnel. Vous connaissez sûrement le concept d'Erasmus. C'est du coup un échange, enfin pas un échange, c'est un semestre à l'étranger pour étudier dans une autre langue, découvrir une autre culture. Avec mes copains, on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas un petit Erasmus? On s'est dit si. Donc on est partis tous les quatre. Je vais pas vous mentir, du coup, partir en Erasmus toute seule, à mon avis, ça m'aurait fait une descente d'organes, ce que j'aurais peut-être d'ailleurs dû faire pour donner encore plus raison à mon proverbe. Mais du coup, on est partis tous les quatre, sauf que moi, je me suis dit, au bout d'une semaine, en voyant les gens autour de nous, nous, on restait vachement entre nous, et je me suis dit, je crois que pour vivre cette expérience, il faut que je parle avec d'autres gens et que je rencontre d'autres gens pour que je vive vraiment l'expérience. Honnêtement, je pense que c'est tout le monde pareil. C'est comme quand t'es en vacances. Bon, je sais pas si mon exemple est probant, je sais pas si tout le monde a vécu ses vacances, mais quand t'es en colo ou quand t'es au club ado, dans un club de vacances, et que tu te tremblotes d'aller voir les autres jeunes de ton âge et de leur parler, que tu te fais violence pour le faire, et qu'à la fin, tu repars en pleurant le dernier jour parce que tu les as trop aimés. Et bah Erasmus, ça a été pareil pour moi. Au début, j'étais vraiment en mode... Je suis à Zagreb en Croatie, qu'est-ce que je fous là? Je vais quand même pas aller parler avec ces gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Je l'ai fait, je me suis fait violence, je suis allée aux soirées sans les connaître. On est allé boire des verres sans trop savoir quoi se dire. Je vous jure les gars que quand je suis partie de Zagreb et que je suis rentrée de mon Erasmus, j'ai passé une semaine à pleurer nuit et jour. C'est un des souvenirs qui me marquera le plus à vie. Et pour autant j'aurais pu dire bon je vais rester dans ma petite école à Lyon, j'ai ma bande d'amis, j'ai pas besoin de me faire plus chier que ça... Et voilà, je vais continuer à vivre tranquillement. Et ben, je me suis dépassée et ça m'a donné une fierté de pouvoir vivre à l'étranger, parler une autre langue, rencontrer de nouvelles personnes et un enrichissement émotionnel immense. Donc ça, c'est vraiment une étape qui est hyper importante et je trouve que ça marche très bien si vous m'écoutez que, par exemple, à la rentrée prochaine, vous avez envie de faire une école ou de partir étudier à l'étranger. Je trouve qu'il faut vraiment le faire parce que c'est vraiment là où tu fais des rencontres qui te marqueront à vie. Il y a toujours des gens dans ta situation, il y a toujours des gens qui sont seuls et qui ont besoin d'une épaule. Et avec un peu de chance, tu tomberas sur la personne qui a besoin de ton épaule et son épaule, elle sera parfaite pour la tienne. Et vous allez... J'ai une descente d'organes, les voisins, ils ont ouvert la porte d'à côté, j'ai cru que c'était mon appartement. Oh purée. Voilà, donc, dans les études, il faut jamais se limiter à... Mais imagine, je connais pas ma chinette, imagine... Pareil pour des trucs où je me retrouvais toute seule dans des classes de... collège ou de lycée, les deux premières semaines j'avais envie de me flinguer et à la fin de l'année les gens c'était mes meilleurs potes et j'avais appris du coup à sortir de ma zone de confort, à rencontrer des nouvelles personnes, à parler différemment, à parler d'autres sujets et c'est en sortant de ça, de ma zone de confort au fur et à mesure, en sortant de groupe d'amis en groupe d'amis, bien sûr j'ai mes meilleurs amis qui resteront pour toute la vie, mais en rencontrant des gens et encore des gens et en étant confronté à la solitude et en étant confrontée au fait d'être toute seule face à des inconnus, c'est comme ça que je suis devenue sociable et que maintenant j'ai aucun problème avec le fait de rencontrer des nouvelles personnes, de discuter à droite à gauche. C'est en sortant de cette zone de confort qui, au départ, pour moi, quand j'étais plus jeune, était vraiment d'être avec mes 4 amis que je connaissais comme ma poche et qui me connaissaient comme leur poche. Pour moi, c'était vraiment ça ma zone de confort et c'était très très compliqué d'en sortir. J'étais très mal à l'aise avec les autres. Et en fait, à force de le faire et à force d'être confrontée à des nouvelles personnes parce que j'avais pas le choix ou parce que je me poussais à le faire, bah je suis maintenant quelqu'un d'assez sociable, on va se le dire, ça me pose aucun problème. Mon exemple suivant, il marche très bien pour le fait de sauter quand on a peur de sauter, c'est pour les conférences pro. Donc moi, en tant qu'influenceuse, j'ai un savoir que certains n'ont pas. Et oui, on ne dirait pas forcément des fois, mais c'est vrai, je sais des choses que vous ne savez pas. En tout cas, j'ai une expertise sur un sujet, ça c'est sûr et certain. J'ai une expertise sur mon sujet qui est du coup l'influence. YouTube, Instagram, les réseaux sociaux, comment tenir une communauté, comment gérer un contrat avec une marque, comment montrer une stratégie de communication, enfin bref. J'ai toutes ces connaissances-là et du coup, vu que c'est un milieu qui commence de plus en plus à intéresser, on m'a proposé, au fur et à mesure du temps, de faire une prise de parole dans ma classe avec mes camarades pour leur expliquer un peu ce sujet-là. Puis on m'a proposé de répondre à une interview pour parler de ce sujet-là. Et puis... De fil en aiguille, on m'a proposé il y a un an de monter sur scène sur un festival qui s'appelle Big, je crois. C'est un festival d'entrepreneuriat et on m'a proposé du coup d'aller toute seule prendre le micro et parler de ce sujet-là. Devant plein de gens, filmé, avec une présentatrice, avec d'autres gens de l'influence qui allaient me confronter et en parler avec moi. Ma première réaction a été de dire « je ne suis pas capable, je n'ai pas le savoir nécessaire ». Je ne sais pas m'exprimer en public, j'ai peur, je vais me taper la honte, je le fais pas. Mes proches m'ont dit, bah franchement, t'es vraiment bête, j'ai de la chance aussi d'être entouré de gens qui savent me dire, là t'es vraiment con, genre, là c'est ridicule, c'est juste ta peur qui t'empêche de le faire, si tu le faisais, tu t'en sortirais très bien. J'étais vraiment en mode, les gars, je peux pas faire ça, je vais me ridiculiser, je suis personne. Au final, on m'a un peu poussé, moi je me suis dit, bon, dis oui et quand tu seras sur place, tu pleureras. Ça aussi, c'est une bonne technique, c'est de dire oui en se disant ce jour n'arrivera pas, et puis quand ce jour arrive, bah t'as pas le choix que d'y aller quoi. Bah, du coup, j'ai pas eu le choix que d'y aller, j'y suis allé, ça s'est hyper bien passé. C'était chambé. Et du coup, depuis un an, j'ai fait plein de conférences, plein de podcasts, plein d'interviews. Et c'est un truc que je kiffe. Et c'est un truc, du coup, qui presque me donnerait envie d'en faire mon métier plus tard. Ou en tout cas, j'aimerais être intervenante pour des écoles de communication, ou pour des salons, ou pour des trucs comme ça, ou ce que je sais sur mon milieu qui, moi, me semble évident et en fait intéressant pour plein de gens. Et vous avez, quoi qu'il arrive, une spécificité, que ce soit la cuisine, les réseaux sociaux ou la science, ou que ce soit la bombe nucléaire, ou que vous soyez Steve Jobs, genre, chacun a quelque chose sur lequel il sait plus que les autres. Que si vous êtes mère, vous savez plus que les autres que c'est que d'être mère. Si vous êtes sœur, vous savez ce que c'est que d'être sœur. Bref, on a tous un terrain sur lequel on peut s'exprimer avec beaucoup d'aisance et on apportera quelque chose aux autres. Et ça, du coup, je l'ai appris en me poussant un peu et en osant me confronter face à plein de gens. Et ça, ça s'est fait aussi graduellement. Ça a commencé quand j'ai dû faire mon premier exposé en école de communication et où j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes alors que j'étais devant 20 camarades qui, eux aussi, avaient l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Et puis ça a fini en conférence devant 400 personnes sur une scène. 400 personnes, ça, j'en rajoute 70 personnes, mais des adultes. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et peut-être que dans 2 ans, je ferai un épisode en vous disant, les gars, j'ai fait un Stade de France pour parler de... pour parler de comment ça marche un post Instagram. Peut-être, qui sait. Ou pour parler de toute autre chose. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça m'a permis de me dépasser encore une fois personnellement. L'exemple suivant, c'est encore dans mon milieu pro, les collabs entre influenceurs. Moi, c'est un truc avec lequel j'ai un peu du mal. J'ai du mal avec le fait de buzzer à tout prix, de faire des vues à tout prix. Donc, je me cantonnais jusqu'à il y a 2 ans à faire vraiment des collabs ou des vidéos ou des rencontres uniquement avec les gens que je connaissais comme ma poche, parce que j'avais pas envie d'avoir l'impression de gratter l'amitié ou de donner une fausse image. Ça me gênait de parler avec des gens que je connaissais pas. J'étais pas à l'aise devant la caméra, machin. Et puis j'ai rencontré sur les réseaux des gens que j'ai adorés. Ces gens-là, je les connaissais pas dans la vraie vie, mais je les connaissais sur les réseaux. Et puis un jour, une de ces personnes que j'avais rencontrées m'a écrit pour me dire « J'ai envie qu'on fasse une vidéo ensemble. Qu'est-ce que t'en penses ?» Moi, je me suis dit « je l'ai jamais fait et j'ai hyper peur, mais disons oui. » J'ai dit oui. Et la veille de filmer la vidéo avec cette personne, je sais pas pourquoi, je tremblais. J'étais très stressée. J'étais vraiment en mode, imagine on s'entend pas bien, imagine on n'a pas le même humour, imagine la vidéo elle est gênante, imagine on s'ennuie. Je me suis forcée parce que de toute façon la personne était venue à Lyon exprès et avait pris un Airbnb. Cette personne c'est vraiment Vivi, je sais pas pourquoi je fais tout un mystère. C'est vraiment Vivi, si tu passes par là je te fais plein de bisous. En plus t'es vraiment une petite meuf comme moi, mais juste je sais pas, vu qu'elle venait de la télé, que je la sentais vachement pleine d'assurance et tout. J'étais vraiment en mode, j'ai trop peur, imagine elle me trouve nulle. Ou imagine on n'a pas du tout les mêmes standards, je sais pas. J'avais super peur, quand je suis arrivée je lui ai dit, franchement je suis trop stressée, je sais pas pourquoi. Et en fait, la vidéo est hilarante, on s'est trop bien entendu. On est allé au resto toutes les deux après, on est restés ensemble jusqu'à 2h du mat. On s'est trop marré, je l'adore. Et du coup c'était une rencontre géniale et qui a super bien marché pour mon travail. Et qui a super bien marché pour moi en tant que personne. Ça s'est reproduit après encore avec des gens que j'ai rencontrés via les réseaux. Et qu'après j'ai vu en vrai et que j'ai adoré. De base mon moi plus timide qui osait pas sortir de sa carapace se serait dit je vais pas aller lui parler. Et en fait je me suis sorti les doigts, je me suis dit mais de toute façon qu'est-ce que t'as à perdre. Faut aussi un peu avoir cette mentalité dans la vie des fois. Même si vous avez beaucoup à perdre, il faut réussir à se manipuler le cerveau et à se dire « je n'ai rien à perdre ». Et en vrai, de vrai, les gars, à part si votre vie en dépend ou la vie de vos proches, ce qui est rarement le cas, au final, on n'a pas grand-chose à perdre, on se fait souvent un monde de rien. Et moi, ce qui me rassure le plus quand je panique d'une situation, c'est que je m'imagine un peu comme le TikTok, je sais pas si vous avez la ref, de quelqu'un qui se pose une question et après il y a un plan sur la Terre qui s'éloigne au fur et à mesure. Et en fait, ça nous rappelle qu'on est vraiment un mini point sur une énorme planète dans un énorme univers. Donc en fait des fois nos problèmes il faut savoir les distancer mais tellement loin, parce qu'en fait ce qui nous tracasse au quotidien c'est rien, et rien n'est grave dans la vie, et le ridicule ne tue pas, et rien n'est impossible, et enfin tout est possible et rien n'est impossible, et voilà, et la vie c'est plus ou moins un jeu. En tout cas il faut s'en servir pour s'amuser, parce que de toute façon à la fin on meurt. Spoiler. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Pas grand-chose, parce qu'on finira tous dans une tombe au final. Voilà, donc sur cette bonne ambiance, mon prochain exemple, c'est voyager seul. Ça, je l'ai pas beaucoup fait encore, parce que j'ai peur de franchir la dernière étape, qui est de voyager vraiment seul pendant genre 1 semaine ou 3 jours. J'ai commencé par prendre le train seul quand j'avais genre 17 ans, que j'avais déjà du travail sur Paris pour l'influence et que j'habitais à la campagne. Donc il fallait que je prenne le bus jusqu'à la ville et que je prenne le train pour aller à Paris toute seule. Quand j'ai fait ça, je me sentais invincible. Genre quand je suis revenue chez moi le soir après ce voyage à Paris toute seule, j'étais en mode mais je peux soulever des montagnes. Aujourd'hui, c'est mon quotidien de venir à Paris toute seule, évidemment. Mais du coup, ça a commencé par ça. Ensuite, ça a été les moments où j'ai pris l'avion toute seule, où je me suis rendu compte que pour rejoindre mes potes ou pour aller travailler pareil, je pouvais monter dans un avion toute seule, que j'allais pas mourir, écouter de la musique en attendant mon avion toute seule, et que je pouvais faire le trajet toute seule et que tout allait très bien se passer. Donc ça, ça a été une très bonne étape aussi. Et puis j'ai fait l'étape à peu près intermédiaire qui est de voyager seule pour voir des gens. Donc je suis allée par exemple rejoindre mes amis à Barcelone. J'habitais toute seule à Barcelone dans un appart pendant 4 jours. J'ai pris l'avion toute seule, j'ai fait l'air toute seule, mais j'avais des amis sur place. J'ai des amis qui habitent dans le sud et j'adore les voir, j'adore passer des moments avec eux. Mais du coup, j'attendais beaucoup que les gens m'accompagnent pour aller les voir parce que je me disais, je vais pas y aller toute seule, c'est un peu ridicule. Donc j'étais toujours dans l'attente de quelqu'un qui va bien m'accompagner. Mais en fait, moi, vu que je suis influenceuse, bah mes horaires elles sont très flexibles, je peux travailler de partout, je peux prendre des vacances quand je veux. Et du coup, bah c'est pas forcément le cas de mes autres amis. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à attendre que quelqu'un soit disponible sans que personne soit jamais disponible. Là, cette année, je me suis dit, bah, je vais y aller toute seule parce qu'en fait, personne ne peut m'accompagner. Donc, soit je fais rien et je reste à Lyon et je m'ennuie, soit je le fais toute seule et puis on va voir. Je me suis pris un petit appart et au final, j'ai trop kiffé et je me suis du coup rendu compte que, en fait, ne pas avoir peur de faire les choses seule, ça c'est aussi un autre épisode de podcast un peu, mais ne pas avoir peur de faire les choses seule, ça fait en sorte que, en fait, tu ne dépends jamais de personne et du coup, t'es limité dans rien dans la vie. Parce que je trouve que ça peut vite être très frustrant de sentir que t'es dépendant des autres et que du coup, tu peux pas faire ce que tu voudrais faire à 100%. C'est moi, ma dernière limite, c'est de faire les choses à 100% seule. Là, pareil, je vous l'avais raconté, mais j'étais invitée au festival Calvi on the Rocks avec un groupe de 10 personnes que je connaissais pas très bien. Puis dans un festival en Corse, je me disais qu'on allait être souvent dehors, qu'on allait pas souvent être, tu vois, qu'on allait se perdre, qu'on allait se retrouver, machin. Tout le monde avait un plus un, et en fait, moi, mon plus un m'a lâché au dernier moment. Et je me suis dit, est-ce que j'y vais pas ? Après, je me suis dit, j'ai tellement envie de m'amuser. Je sens que, je sais pas pourquoi, je le sens qu'il va se passer quelque chose là-bas. J'ai envie de le vivre, ce festival. Donc je vais y aller seule, sans mon plus un, et je vais voir ce qui se passe avec ces gens que je connais pas très bien. Bah ça a été une des meilleures expériences de mon année, j'ai adoré. Le fait d'être seule m'a permis du coup de vraiment pouvoir parler avec tout le monde sans devoir faire le chaperon de mon plus un ou de la personne avec qui je serais partie. Et du coup voilà, c'était pour moi la dernière étape avant de partir vraiment seule. Il faut que je me dépasse et je vais le faire. Vraiment genre prendre un billet d'avion ou un billet de train ou que sais-je et partir 3 jours toute seule. C'est une expérience à faire. Je suis pas sûre que ce soit le truc qui me plaise le plus. Ça va peut-être me faire kiffer, peut-être pas. Mais en tout cas, le plus important, c'est de se prouver par tous les moyens et du coup de faire tous ces tests-là pour être sûr que tu dépends jamais de personne et que si demain, on te propose l'opportunité professionnelle de ta vie à l'autre bout du monde, tu sois capable de dire « bah personne ne va venir avec moi, mais je vais y aller quand même ». Et peut-être en moins dramatique, si demain, t'es muté à Bordeaux, tu sois capable de dire « bah je vais y aller, même si j'habite à Lyon, je vais aller à Bordeaux travailler et je vais m'en sortir, je vais rencontrer de nouvelles personnes ». Un exemple qui est hyper probant et qui est vraiment le meilleur, parce que du coup c'est vraiment l'exemple de base de ce podcast, j'ai toujours dit depuis des années, moi mon rêve, je le ferai un jour, je vais sauter en parachute, c'est un truc qui va m'aider à me dépasser et tout, je le ferai. C'est très facile à dire. Un jour, ce jour était il y a 6 mois, pour mon anniversaire et celui de mon frère qui est quelques jours après le mien, mon père nous a convoqués et nous a dit « Mes enfants, voici mon cadeau pour vous, vous allez sauter tous les deux en parachute. » Donc là, je me suis retrouvée confrontée avec la phrase que je disais depuis des années, qui était très facile à dire et qui me donnait l'air un peu stylé, mais là, j'allais vraiment devoir le faire. Donc j'ai vraiment failli tomber dans les pommes. Bien sûr, vu que c'était un cadeau, papa, si tu passes par là, je t'embrasse, ne prends pas mal ce que je vais dire. Vu que c'était un cadeau, je pouvais pas hurler à mon père, papa, j'ai le vertige, je vais pas sauter d'un avion, t'es complètement taré, t'as fumé la moquette. Donc j'ai dit merci beaucoup, j'ai fermé ma gueule. L'échéance approchait petit à petit. Je devenais de moins en moins agréable avec mon père parce que mon père était vraiment en mode... Vous allez adorer, ça va être le jour de votre vie. Moi, j'étais vraiment, mais je vais y passer, genre. Dès que j'y pensais, tu connais ce sentiment, dès que j'y pensais, j'avais une montée d'adrénaline, genre, mais d'adrénaline vomie. D'adrénaline vomitive, où j'avais vraiment envie de clamser. Je le sentais pas, j'avais mal au cœur, ça me serrait le cœur, genre, je le sentais vraiment pas, j'avais très 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 peur. Le jour arrive, il y a trop de vent, c'est annulé. Soulagement intense. la procrastination, la meilleure chose pour pas sauter quand il faut sauter. Tu vois, tu connais. La procrastination, c'est vraiment le remède des gens qui ont peur de sortir de leur zone de confort. Ça fait partie de mon cas, hein, je fais partie de ces gens-là. Mais du coup, voilà, ok, la date est repoussée d'un mois. Sauf que du coup, pendant le mois qui précède le moment où je vais vraiment sauter en parachute, je ne fais que d'y penser. Je suis vraiment très 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 mal. Je sais que ça peut être une expérience de fou parce que tous les gens qui le font disent que c'est fou. J'ai encore des images de Benjamin des Anges qui saute en parachute et qui dit « c'est le meilleur truc de ma vie, je n'oublierai jamais ce sentiment ». Donc je me dis, si Benjamin et Amélie Nethen l'ont fait, je peux le faire moi aussi. Arrive la veille du truc, je suis avec mon père et mon frère, ils sont tous les deux trop contents, moi je suis en décomposition. Arrive le matin du truc, je me dis, ce que je fais quand je vais vivre une épreuve, et que de toute façon j'ai pas le choix que de le vivre, mais que le stress est immense, c'est arrivé aussi avec ma réduction de ma mère. J'ai fait une réduction de ma mère en mars dernier, et j'avais extrêmement peur. Et en fait, c'est une peur, comme pour sauter en parachute, c'est une peur qui te dépasse un peu, parce que, par exemple, sauter dans un avion et se faire ouvrir la poitrine, c'est un peu la même chose. C'est vraiment un sentiment où tu peux être dépassé par la panique, et moi, quand je sens que je vais vraiment être dépassé par la panique et que soit je pleure et meurs, soit je le fais, mais que de toute façon, j'aurais pas le choix que de le faire, je sais pas comment je fais, mais dans ces situations extrêmes, mon cerveau, j'arrive à le manipuler pour être en mode « bah, de toute façon, on y est ». Donc passons un bon moment. Et pour mon opération, je l'avais fait et j'étais outrée, je sais pas, que j'ai été très très fière de moi et très fière de ce qui se cache au final dans ma tête et de ce dont je suis capable. J'aurais vraiment pu, je l'ai fait toute seule mon opération, donc je suis allée à l'hôpital toute seule, j'ai attendu toute seule, je suis allée au bloc toute seule, et j'aurais vraiment pu être dans un état, sombrer dans un état de panique totale, de stress, j'aurais pu en vomir, en pleurer et tout. Et en fait, je suis vraiment passée en switch total, en mode « c'est génial, je vis une étape incroyable ». Certes, ça fait peur, mais je vis une étape incroyable. Et du coup, j'ai passé un moment exceptionnel alors que j'allais vraiment me faire charcuter par un inconnu dans une zone intime de mon corps. Et bah, j'avais le sourire et j'étais en mode, là, je fais un grand moment de vie. Et du coup, faut que je le vive bien, parce que de toute façon, si je le vis mal, ça changera rien. Je me suis vraiment dit pareil pour le parachute. Je me suis dit, de toute façon, je vais devoir y monter dans cet avion. Donc, si je le vis mal, ça va stresser tout le monde, ça va me stresser moi. Si je le vis bien, ça va être un encore meilleur souvenir. De toute façon, je vais le vivre, donc autant que ça se passe bien. Et du coup, je suis passée en mode, bah, sautons de cet avion, les amis. Donc j'ai fait des blagues, je suis montée dans l'avion, et à partir du moment où l'avion a décollé, j'avais le sourire, et j'étais en mode, ok, j'avais peur, je voulais mourir depuis 2 mois, mais en fait là, je sens que je vis un moment fort de ma vie, genre. Et c'est la meilleure sensation, en vrai. C'est la meilleure sensation. Le stress avant, il est très chiant, et en vrai, c'est une sensation dont tu pourrais te débarrasser en faisant rien, tu vois, en faisant juste ta routine, t'aurais pas à ressentir ce genre de stress. Mais en fait, quand tu vis le moment, t'es en mode, ok, là, ça va changer quelque chose en moi et ça va marquer ma vie, genre. Et du coup, bah, le saut en parachute, c'était fou. Et quand j'ai eu le plus peur de sauter, c'est vraiment là où le monsieur m'a poussé de l'avion et j'ai sauté. Et ça conclut parfaitement cet épisode, qui n'est pas fini, attention, j'ai un dernier exemple, mais ça illustre parfaitement cet épisode. Quand j'étais vraiment assise sur le rebord de l'avion avec les pattes dans le vide, j'ai une vidéo, je vais essayer d'en faire un reel et de vous le mettre sur Insta. J'ai vraiment une vidéo où je regarde le sol et je hurle. Et le mec me relève la tête et me pousse de l'avion, genre. Vraiment en mode, relève ta tête, princesse, ta couronne va tomber. Et saute. Et là, franchement, tu sautes, t'es vraiment dans le ciel. Et là, t'es vraiment en mode, ok, mais la vie ne va rien dire, genre. Et si je peux faire ça, je peux tout faire. Et aucune situation ne me fera plus jamais peur. Parce que si je peux sauter d'un avion en chute libre, je peux aller boire un verre avec un inconnu. Et non ! On y vient. C'est le dernier exemple. Celui qui me pose encore problème, c'est les dates et les rencontres amoureuses. Vous avez peut-être, si vous suivez ce podcast, vous avez peut-être compris que j'ai un peu un problème avec l'amour et que c'est quelque chose qui me fait très peur. Et les dates, pour moi, c'est quelque chose qui est insurmontable. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si je suis toute seule, mais je pense pas. C'est que le fait de me retrouver en face à face avec une personne que je connais pas, parce que les dates, quand je connais quelqu'un, ça me pose pas aucun problème, mais ça me pose beaucoup moins de problèmes. Je l'ai fait récemment. À partir du moment où je te connais, aller boire un verre avec toi, ça m'aurait demandé beaucoup trop d'efforts avant. Maintenant, c'est bon. Mais par contre, aller boire un verre ou aller au resto ou aller au ciné avec quelqu'un que je n'ai jamais vu, ça m'angoisse tellement parce que je sais que du coup, on sait tous les deux pourquoi on est là. C'est pour se pécho. Enfin, en tout cas, pour voir si on se plaît. Donc là, ça va être un peu comme un test. Soit il va me plaire et je vais pas lui plaire, soit je vais lui plaire, il va pas me plaire, soit les deux, soit pas les deux. Donc ça veut dire qu'il y a un jugement dans ce moment-là que j'ai du mal à supporter. Et en plus, imagine, tu t'entends pas, t'es bloqué l'un envers l'autre pendant 2 heures. Tu peux pas te barrer comme ça. Et imagine, tu le trouves gênant. Et imagine, c'est un mec trop bizarre. Et imagine, c'est un forceur. Ou imagine, il me trouve chiante. Ou imagine, il me trouve moche. Je trouve qu'il y a tellement de jugements et de possibilités que ce soit nul que ça me stresse et que du coup, j'ai dû vivre dans ma vie. J'ai toujours eu très peur de sauter avec les hommes. Donc j'ai vraiment... Quand t'as le plus peur de sauter, c'est là où il faut sauter. C'est vraiment quelque chose que je ne fais pas avec les mecs parce que j'ai peur de sauter et je ne saute pas parce que j'ai trop peur. Donc je me suis empêchée de rencontrer des gens plein de fois. Je me suis empêchée quand j'étais dans mes années collège, lycée, de me rapprocher de personnes parce que j'avais peur et du coup j'osais pas y aller, donc je le faisais pas. Je me bloquais, du coup les gens n'avaient pas l'opportunité de me découvrir. Mon premier bisou, c'était en 3e avec un monsieur que j'ai rencontré en colo de vacances. Et je me rappellerai toute ma vie du moment où j'étais assis sur une fontaine en pierre à côté de la salle où tout le monde dînait, qui avait Heads Will Roll de... Comment ça s'appelle déjà? Je vais vous passer un extrait. Voilà. Et bah, franchement, les gars, j'avais jamais embrassé personne. Je suis moi, phobique de la relation, phobique du contact humain. Je vous fais une mise en scène. Il y a vraiment cette musique en fond. Je suis assis sur ce mur en pierre avec un monsieur qui s'appelle Lucas, qui est tout simplement magnifique, qui a 2 ans de plus que moi, qui est trop gentil, qui me kiffe. Je suis assis sur ses genoux et Lucas me regarde dans les yeux et je sais que c'est le moment dans le film où on s'embrasse. Et il y a cette musique en fond et dans mon cerveau, je vous jure, j'avais donc vraiment 16 ans, j'ai une phrase où je me dis, ça, ce moment-là, je vais jamais l'oublier. Je vais vomir tellement j'ai peur là. Donc soit je tourne la tête et je pars, soit je le regarde et je l'embrasse. Je me suis dit 1, 2, 3. Je l'ai regardé et on s'est embrassé. Bon, fin de la mise en scène. Mais du coup voilà, et là, ce moment-là, il m'a marqué toute ma vie, je m'en rappelle encore. Et quand j'entends cette musique, j'ai envie de chialer parce que c'est un des moments les plus touchants et forts de ma vie. Alors que c'était juste un bisou en colo avec Lucas. C'est le moment où j'avais tellement peur et je l'ai fait et c'était trop génial. Et du coup après, on était amoureux. Et après, je suis rentré à Lyon et après, je voulais crever pendant 2 mois. Et puis après, j'ai oublié Lucas. Et ça s'est reproduit pour, du coup, mon premier petit ami. Parce que j'ai eu une relation pendant 3 ans quand j'étais au lycée où j'avais un crush sur un mec qui avait un crush sur moi. On était un peu amoureux tous les deux, tout le monde le savait. Mais en fait, l'un comme l'autre, on n'a jamais osé sauter. Et du coup, bah, ça s'est jamais concrétisé. Et je suis passée à côté de cette relation. Donc pendant 3 ans, je souffrais parce que je le kiffais, mais j'osais pas. J'arrivais pas à le faire. Et lui non plus. Donc du coup, on s'est jamais rapprochés. C'est malheureux parce que du coup, c'est sûr que je suis passée à côté d'un amour de jeunesse qui aurait été chambé, mais on n'a jamais réussi à le faire. Quand je suis arrivée en études supérieures, je me suis dit qu'il fallait que je me dépasse sur ça, mais en fait, c'est une peur qui est tétanisante pour moi. Et c'est vraiment, quand je vous disais le sentiment que t'as avant de faire un truc qui te fait peur, c'est que c'est un stress qui est constant. Par exemple, là, mon amie Astrid, qui est une de mes meilleures amies, part vivre aux États-Unis toute seule. Et elle a un sentiment que je connais exactement, et je pense qu'on a tous déjà ressenti. C'est le sentiment où t'as un goût amer un peu, t'as le cœur pincé, tu te sens pas bien, et du coup ça gâche un peu le truc parce que t'aimerais avoir l'excitation, mais t'es juste mal. Et du coup tu te dis presque, bah si j'annulais, au moins je ressentirais pas ça. Après t'aurais pas du coup l'expérience de fou qui fait que ça va te marquer à vie, et où il faut se dépasser pour le faire. Mais du coup moi ça me faisait pareil avec les mecs. J'avais un mec qui me plaisait, mais en fait ça me mettait tellement dans l'angoisse que je préférais arrêter de le calculer que de le confronter ça. Un jour il y a un monsieur qui m'a écrit sur Instagram, non sur Facebook, Messenger. Et je sais pas comment il m'a grippé avec cette phrase bateau, et de fil en aiguille, je parlais avec ce monsieur tous les jours. Je trouvais ce monsieur très drôle. Ce monsieur a réussi à me faire l'appeler, a réussi à me faire parler avec lui pendant des heures au téléphone. Et un jour, ce monsieur m'a dit « Est-ce que tu veux bien me rencontrer ?» Et j'ai eu la réaction que j'avais depuis du coup 20 ans, qui était « Je vais mourir, je ne veux pas voir ce monsieur, donc j'annule. » Je suis allée au resto avec mes amis qui m'ont dit « Anna, cette fois-ci, on va te forcer, tu vas y aller. Ça suffit maintenant de fuir tout le temps. » Je me sentais tellement mal, mais je me suis dit, de toute façon, il faut que je le fasse parce que sinon, je vais passer à côté de ma vie. J'ai dit oui. Je suis allée à ce date avec l'envie de vomir avant. Et désolé, je vous donne une exclue, mais il faut être honnête. J'étais tellement stressée que j'ai bu 3 verres de vin toute seule avant d'y aller. Parce qu'il fallait que je me calme, genre. J'y suis allée, c'était chambé. Quand je suis rentrée de ce date, j'avais un sourire jusqu'aux sourcils. J'ai passé une soirée avec mes amis où ils ne m'ont jamais trouvée aussi épanouie parce que j'étais tellement contente de l'avoir fait. Et en fait, ce monsieur, c'était Samuel, mon ex fou, qui m'a rendu la vie horrible pendant 3 ans. Donc, c'était pas la bonne personne. Pas du tout la bonne personne, il m'a complètement détruite. Mais c'était la bonne chose à faire parce que comme ça, j'ai vécu quelque chose. Même si c'était compliqué, même si c'était pas la bonne personne, j'ai vécu et j'ai des souvenirs et j'ai appris. Et c'est ce qu'on me dit souvent quand je dis que j'ai peur de me mettre en couple parce que je me rends compte en observant autour de moi que bah en fait souvent l'amour ça détruit, et souvent ça se finit pas bien, les histoires d'amour finissent mal en général comme on dit. Et je me rends compte que bah moi j'ai un peu la flemme de encore me prendre tarif et du coup être fatiguée, être pas bien, être triste, passer à côté de mon taf, passer à côté de mes amis. Et les gens me disent tout le temps mais en fait si tu prends pas le risque, tu vas rien vivre. Et bah c'est vrai. Et c'est vraiment ce que je me tue à me dire pour tous les autres domaines, mais pour le dating et pour l'amour, c'est toujours un peu compliqué. Donc ça reste un domaine de travail, mais en effet, à chaque fois que je me suis poussée à rencontrer quelqu'un, à parler avec quelqu'un avec qui j'avais peur de parler, à la fin, j'en avais toujours au moins la fierté de l'avoir fait. Même si c'était pas la meilleure rencontre, même si c'était pas la meilleure personne, au moins j'étais contente de me dire quand je veux, je peux, et j'ai voulu, je l'ai fait. Ce qui conclut cet épisode, c'est que vraiment pour moi, sauter quand on a peur de sauter, c'est vraiment un truc qu'il faut appliquer dans sa vie tout le temps, mais vraiment tout le temps. Et pour moi, c'est un peu le fil rouge de ma vie, parce que je trouve que c'est ce qui t'amène vers l'étape suivante, c'est ce qui t'amène vers la rencontre qui va t'aider à avancer, et c'est ce qui fait que du coup, tu vas toujours apprendre et évoluer. Je trouve que c'est très important d'évoluer tout le temps dans la vie, et bah, que la plupart des opportunités que j'ai eues, et la plupart des choses qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui, et que je suis très contente d'être qui je suis, mais même si je suis qu'à la moitié, hein, et un quart peut-être même, de ce que je veux être et de ce que je veux faire, bah tout ce que j'ai fait qui m'a rendu heureuse et qui m'a rendu fière, je l'ai fait en me mettant un coup de pied au cul et en me disant j'ai très peur de sauter, mais j'ai envie de sauter, donc je vais sauter. Et voilà, c'est ce que j'ai envie que vous reteniez. Je vous dis pas de le faire pour des trucs de fou, parce que comme je vous l'ai expliqué, moi ça a commencé par juste oser prendre le train toute seule pour aller rejoindre des gens dans une autre ville, ou juste oser parler à la personne qui était assise à côté de moi en classe et que je connaissais pas. Ou juste oser aller acheter ma baguette le matin alors que j'avais peur d'aller toute seule dire bonjour à une commerçante. Faut juste faire un petit truc qui te fait un peu peur, et quand tu te seras prouvé que tu peux faire ce petit truc, tu pourras faire un autre truc un peu plus gros, puis plus gros, puis plus gros, et au final tu pourras soulever des montagnes alors que tu pensais pouvoir soulever que des petites collines. Sur cette belle métaphore, la vie est une occasion d'apprendre et de progresser, donc il faut saisir chaque opportunité. C'est ce qui crée les souvenirs les plus probants, et j'ai d'ailleurs envie de faire une vidéo sur YouTube depuis un moment qui s'appelle le Yes Day. Ou yes man, je sais plus, bref, en tout cas tu dis oui à tout. Bon, alors après ça peut t'amener dans des trucs qui n'ont aucun intérêt, mais je trouve qu'il faudrait que je le fasse, et c'est en corrélation avec cet épisode, parce que je trouve que dire oui à tout, ça te force à dire oui à des trucs auxquels t'aurais pas forcément dit oui, et du coup ça te pousse à te dépasser. En tout cas, sur ces phrases très sages, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ça vous aura un minimum inspiré. Je veux pas du tout être une forceuse qui est en mode « la vie est faite pour se dépasser, toujours plus fort, toujours plus loin », pas du tout, mais je trouve que c'est quelque chose à retenir. J'avais cette phrase qui me trottait en tête, et j'ai vu un TikTok d'une fille qui m'a taguée, qui a vraiment fait un TikTok en disant « Anna Herbert a un jour dit cette phrase et depuis ça m'aide à avancer dans la vie ». Et je me suis dit « Mais quoi ?» Bah je vais vous en parler les gars, parce que moi ça m'aide à avancer, mais je me motive toute seule. Donc si on peut se motiver tous ensemble, c'est chambé. Ce qui me ferait grave plaisir, c'est que vous m'envoyez par DM Insta @AnnaHerbert une fois où vous avez fait quelque chose où vous aviez très très peur de sauter, donc de dire oui. Vous saviez que ça allait être bien pour vous, vous l'avez fait, et aujourd'hui c'est un souvenir qui vous a marqué et qui marquera votre vie. S'il n'y en a pas, je vais vous forcer à le faire dès demain, et s'il y en a, écrivez-le moi, ça me fera trop plaisir de vous lire. Voilà mes petits choups, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, merci d'être encore et toujours là, je vous réserve plein de belles choses qui arrivent très prochainement, croyez-moi que j'ai fait marcher mes méninges. Je vous fais un kiss, et je vous dis à la prochaine, bye bye.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.